VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 1er novembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, les résultats officiels du référendum constitutionnel de dimanche, prévus maintenant pour cet après-midi.
Le roi Mohamed VI insiste pour que la demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine soit transmise aux États membres.
Les forces irakiennes n'étaient plus hier qu'à quelques centaines de mètres de la périphérie est de Mossoul.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier le mandat des enquêteurs sur les armes chimiques en Syrie.
Ici aux États-Unis, Hillary Clinton toujours en tête dans les sondages après les derniers rebondissements de l'affaire de son serveur privé.
Justement, ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Les Ivoiriens devront attendre jusqu'à cet après-midi pour l'annonce du résultat du référendum sur la nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara. Avec le boycottage de l'opposition, le oui était logiquement largement en tête selon les résultats partiels. Jean-Roger Bion.
Après la lecture de plusieurs dizaines de procès-verbaux, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a remis vers 1h30 local et GMT à mardi 13h30 l'annonce des résultats de 15 des 31 régions restantes. Les résultats partiels annoncés laissent apparaître que le oui est largement en tête alors que le taux de participation varie selon les départements, mais il est encore impossible de donner des chiffres fiables, la masse des résultats manquants étant trop importante. L'issue du référendum ne fait toutefois aucun doute. Avec le boycottage de l'opposition, le taux de participation des 6,3 millions d'électeurs appelés aux urnes étant le véritable enjeu du scrutin. Dans un communiqué officiel, la Commission avait rappelé dans la journée qu'elle est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires du scrutin. Les deux coalitions de l'opposition ivoirienne n'ont, elles, pas attendu, donnant dès dimanche soir leurs estimations respectives. Pour l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFDCI, le taux de participation est entre 6 et 7%.
Toujours en Côte d'Ivoire, les premiers ministres de la France et de la Côte d'Ivoire, Manuel Valls et Daniel Cablan-Duncan, ont signé hier à Abidjan une convention d'affectation du projet de renforcement du secteur de la justice en Côte d'Ivoire. Cette convention s'inscrit dans le deuxième contrat de désendettement et de développement portant sur un montant de 40,60 milliards de francs CFA.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a demandé au chef d'État tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, de transmettre aux États membres la demande d'adhésion de Rabat. Des détails avec Nathalie Barge.
Cette demande d'adhésion a été déposée le 22 septembre auprès de la Commission de l'Union africaine. Kossa Zana Dlamini Souma aurait dû la transmettre promptement, mais ne l'a pas fait, laissant entendre un communiqué du cabinet royal. Mohamed VI a demandé à Idriss Déby d'intervenir auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour la distribution à l'ensemble des États membres de la demande d'adhésion du Maroc, indique le communiqué. Monsieur Déby a réagi positivement et fera le nécessaire, affirme le cabinet. Le Maroc avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Mi-juillet, Mohamed VI avait souhaité que son pays revienne au sein de l'Union africaine sans renoncer à ses droits sur le Sahara occidental. Il est actuellement en tournée africaine. Une étape à Addis Abeba a toutefois été reportée à fin novembre, selon le cabinet du roi du Maroc.
Human Rights Watch a accusé les autorités, soldats et policiers nigérians de viol et d'exploitation sexuelle de jeunes femmes et filles enlevées par Boko Haram et qui avaient réussi à s'évader pour se réfugier dans des camps gouvernementaux. L'Organisation de défense des droits de l'homme a lancé de telles accusations dans un rapport publié hier.
Le Comité pour la protection des journalistes signale que 95% des journalistes assassinés à travers le monde au cours des 10 dernières années étaient des reporters locaux. Et un grand nombre des personnes coupables de leurs meurtres n'ont pas été punies. Une telle impunité pour le CPJ constitue l'une des plus grandes menaces à la liberté de la presse. Le Soudan du Sud fait partie des 5 principaux pays où des journalistes ont été tués en toute impunité en 2016.
Les forces libyennes qui tentent depuis mai dernier de reprendre Sirte à l'État islamique ont annoncé hier partir à l'assaut du dernier quartier encore contrôlé par les djihadistes et tout faire pour épargner la population civile. Les brigades essentiellement formées de combattants de Misrata et qui bénéficient de l'appui aérien des États-Unis ont déclaré dans un communiqué faire face à une résistance désespérée au fur et à mesure de leur progression dans le secteur de Giza Bahria, truffé de snipers et de voitures piégées. À Londres, les chefs de la diplomatie américaine, britannique, italienne, émiratie et saoudienne ont rencontré le Premier ministre Fayez Sarraj pour lui exprimer leur soutien, alors que le gouvernement d'entente nationale ou d'union nationale qu'il dirige peine à imposer son autorité en dehors de Tripoli.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes n'avaient plus hier que quelques centaines de mètres à reconquérir pour prendre position à la périphérie est de Mossoul. Ce dernier bastion du groupe État islamique en Irak est désormais sous pression de tous les côtés. L'offensive irakienne est entrée dans sa 3e semaine et des dizaines de localités situées dans les plaines autour de la métropole ont été reprises aux djihadistes avec le soutien de l'aviation et de l'artillerie de la coalition internationale menée par Washington.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier le mandat d'enquête sur les armes chimiques en Syrie. L'équipe d'enquêteurs dispose de 18 jours supplémentaires pour déterminer la responsabilité d'attaque. Eric Manirakiza.
Selon une résolution adoptée à l'unanimité, le Conseil envisage de reconduire encore la durée de l'enquête avant son expiration. En attendant, les 15 pays membres devraient s'accorder sur un nouveau mandat d'un an souhaité par Washington, Londres et Paris, mais réfuté pour l'instant par Moscou. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Churkin, a souligné que son pays exige d'étendre l'enquête aux pays voisins, mais aussi de se pencher davantage sur les cas présumés d'utilisation de produits toxiques par des groupes extrémistes. Il a estimé que le mandat ne peut pas être limité à la Syrie. Son homologue britannique Matthew Rycroft s'y est opposé. Il a indiqué qu'il s'agirait de la distraction, mentionna que c'est la Syrie qui utilise des armes chimiques contre sa propre population. Au terme de plus d'un an de recherche, le régime de Bachar al-Assad a été accusé d'avoir mené 3 attaques chimiques contre des localités du nord de la Syrie en 2014 et 2015.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué hier l'élection de Michel Aoun comme président du Liban et il a appelé les Libanais à former sans attendre un gouvernement capable de relever les graves défis qu'affronte le pays frontalier de la Syrie. Claire Morin-Gibourg.
L'ex-général chrétien Michel Aoun est devenu lundi le nouveau président libanais, mettant fin à un vide institutionnel de 2 ans et demi causé par de profondes divisions. Ban Ki-moon a félicité le nouveau président en mettant l'accent sur le besoin du pays de, je le cite, s'appuyer sur des institutions étatiques efficaces qui doivent œuvrer dans un esprit d'unité et dans l'intérêt national. L'ONU continuera également d'aider le Liban à préserver sa sécurité et sa stabilité, a-t-il assuré. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a lui rendu hommage à la générosité incroyable du Liban qui accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens. Du côté américain, le département d'État s'est borné à féliciter le peuple du Liban pour l'élection du président Michel Aoun. Les États-Unis ont également réclamé la mise sur pied rapide d'un gouvernement à Beyrouth. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État John Kerry, qui s'exprime très rarement sur le Liban, s'était déjà montré sceptique sur le laborieux compromis entre les principales factions politiques libanaises ayant permis l'élection de Monsieur Aoun.
En Turquie, la police a arrêté hier le rédacteur en chef et plusieurs journalistes de Cumhuriyet, principal quotidien d'opposition. Le journal a assuré qu'il lutterait jusqu'au bout dans un pays où la presse a été particulièrement visée par les purges menées depuis le putsch avorté de juillet.
Présidentielle américaine, suite au dernier épisode de l'affaire de ses emails privés quand elle était au département d'État, la candidate démocrate Hillary Clinton est revenue hier à un thème favori, dénoncer le danger représenté selon elle par un Donald Trump à la tête d'un arsenal nucléaire américain. Le candidat républicain a quant à lui continué à exploiter la décision du directeur du FBI de rouvrir éventuellement l'enquête sur cette affaire. Il a déclaré s'attendre à une enquête pénale prolongée, ajoutant que l'élection de Mme Clinton en enfoncerait l'État et notre pays dans une crise constitutionnelle. Les sondages se sont nettement resserrés depuis deux semaines, mais la déclaration surprise du directeur du FBI vendredi ne semble pas avoir rebattu les cartes. Selon les premières enquêtes d'opinion, l'élection a lieu dans une semaine maintenant. Et nous reviendrons sur cette présidentielle dans la seconde partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon la Banque mondiale, les compagnies d'électricité en Afrique subsaharienne peuvent être viables en pratiquant des tarifs accessibles aux pauvres. L'étude effectuée dans 39 pays propose des solutions pour permettre aux fournisseurs de recouvrer leurs coûts tout en rendant l'électricité abordable à tous. Le déficit budgétaire de l'État tchadien pour l'exercice 2016 a été revu à la hausse à 274 milliards de francs CFA avec des recettes et dépenses révisées à la baisse selon la deuxième loi de finances rectificative. Le déficit de la première loi était de 204 milliards. Selon le ministre des Finances, la révision des recettes est liée à la dépréciation des cours du brut et à la contre-performance du recouvrement fiscal et douanier. Le Tchad a pris en août des mesures d'urgence pour réduire le train de vie de l'État. First Bank of Nigeria va financer l'acquisition de véhicules d'occasion par des chauffeurs d'Uber Nigeria. Sont éligibles ceux qui ont généré un chiffre d'affaires de 2,4 millions de naira sur les 6 derniers mois. Ils obtiendront un prêt à 20% remboursable sur 24 mois ou 22% sur 36 mois.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Reprise de la Ligue des Champions.
Dans le groupe A, le Ludogorets face à Arsenal, le Paris Saint-Germain, toujours un peu dans le doute, face au FC Bâle en Suisse. Dans le groupe B, Benfica contre le Dynamo de Kiev et puis Naples qui se déplace à Istanbul sur la pelouse du Beşiktaş. Le choc de cette soirée, incontestablement Manchester City qui accueille en Angleterre le FC Barcelone. Dans le même groupe, le Borussia Mönchengladbach, le club allemand qui accueille les Celtics de Glasgow. Et puis dans le groupe D, l'Atlético Madrid accueille Rostov, le PSV Eindhoven face au Bayern Munich.
Suite du tour du Faso.
Oui, la quatrième étape hier entre Combissiri et Tiébélé, remportée par l'Ivoirien Bamba Karamoko devant l'Érythréen Dawit Araya Haile, au général le Français Gviatkowski du club de la défense et maillot jaune de leader.
Le sélectionneur allemand prolonge son contrat avec la Mannschaft.
Joachim Löw, champion du monde en titre, a prolongé son contrat de 2 ans jusqu'à l'Euro 2020. Annonce de la fédération allemande, le contrat de Löw, âgé de 56 ans, qui a pris la tête de la Mannschaft au lendemain du Mondial 2006 organisé par l'Allemagne. La Mannschaft avait alors terminé 3e. Son contrat courait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2018 en Russie. On rappelle que l'Allemagne court après un titre de champion d'Europe depuis 1996. En 2020, l'Euro sera organisé dans 13 pays différents, dont l'Allemagne, qui accueillera 3 matchs de poule et un quart de finale.
Tennis, début du Masters de Paris.
En effet, le dernier Masters 1000 de la saison, une occasion de voir les meilleurs joueurs mondiaux à Paris. Toutefois, l'épreuve ne comptera pas l'ensemble du Big Four, composé de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray. Seul le Britannique est là. Il affrontera au prochain tour l'Espagnol Fernando Verdasco, qui s'est qualifié pour le 12e tour après l'abandon de Robin Haase. Le Français Paul-Henri Mathieu ne verra pas non plus le 2e tour. Il a été battu par le Chypriote Marcos Bagdatis en 6-2, 6-4. Et puis Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Denver 102, Toronto 105, Chicago 118, Brooklyn Nets 88. Sacramento 95, Atlanta 106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le président Roch Kaboré a présidé hier à Ouagadougou à la cérémonie commémorative du deuxième anniversaire de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Un hommage a été rendu à cette occasion aux martyrs de ce soulèvement et à leur sacrifice. Compte rendu d'Issa Napon, un de nos correspondants sur place.
La désormais ancienne Assemblée nationale a connu une effervescence particulière à l'occasion de la célébration de l'an 2 de l'insurrection populaire au Burkina. Et pour cause, c'est le saccage de l'hémicycle qui sonnait le glas il y a 2 ans de la fin du règne du régime du président Blaise Compaoré. Pour l'occasion, c'est un décor de circonstances qui a été apprêté sur les ruines pour accueillir le cérémonial de commémoration qui a débuté le matin par la minute de silence marquée par la sirène de la capitale. Le président du Faso en personne a rendu un hommage à ceux qui ont défendu la démocratie par leur sacrifice suprême lors de cette insurrection et du putsch manqué de septembre 2015. Le président du Faso a déposé une gerbe de fleurs avant de s'incliner sur leur mémoire. Roch Christian Kaboré.
Cet hommage est un hommage, je dirais, à vie, parce qu'ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Et je dois dire que ce qui est constant, ce qui est permanent dans la bouche des Burkinabés, c'est qu'il faut que la justice soit rendue.
Tous étaient là, ou presque, car manquait à l'appel le général Yacouba Isaac-Zida, que plus d'un cherchait du regard en vain. Reconnaissant le rôle et la bravoure de ceux qui emportent encore des stigmates, aujourd'hui, le président Kaboré a tenu à rassurer les blessés et les familles de martyrs de son entier soutien.
Aucun moyen matériel ne remplace la vie humaine. Et c'est pourquoi nous devons tous être engagés à ce que la justice soit rendue et que ces familles puissent retrouver la paix du cœur. Il est clair que ce sera à travers la vérité, la justice véritable, que nous pourrons nous réconcilier. J'ai pris l'engagement que toutes ces personnes, plus d'une centaine de personnes qui auront encore des problèmes à régler, nous allons trouver les solutions pour qu'ils soient soignés et qu'ils puissent apporter leur pierre à la construction du Burkina Faso.
Des blessés et familles de martyrs qui, bien qu'heureuses d'un début de résolution de leurs soucis existentiels, insistent et attendent toujours justice pour les leurs. Bien avant, un boulevard était baptisé en l'honneur des insurgés et une marche populaire organisée depuis la place de la Révolution, épicentre de la contestation d'octobre 2014, et en hommage aux sorties répétées du peuple pour contraindre l'ancien régime à abandonner son projet de modification de la loi fondamentale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a officiellement proclamé hier à Bangui la fin de 3 ans d'opérations militaires françaises en Centrafrique. Toutefois, cette décision ne marque pas la fin des relations militaires entre Paris et Bangui. Le pays, la RCA, est désormais sous la seule protection des Nations Unies. De la capitale centrafricaine, Freeman Sepila.
Les militaires français ont été déployés en Centrafrique en 2013 alors que le pays était en proie à des affrontements meurtriers entre la rébellion de la Séléka et les miliciens anti-Balaka. 3 ans aujourd'hui, l'opération a permis d'éviter le chaos et l'élection de nouvelles institutions démocratiques. Le retrait des troupes françaises fait craindre dans le pays un risque de nouvelles flambées de violence.
Je pense que c'est pas le moment de laisser les Sangarés rentrer chez eux parce que s'ils n'étaient pas là, la situation allait être pire.
Je veux que les Sangarés restent.
La mission Sangarés a bien travaillé plus que la MINUSCA. parce qu'ils travaillaient bien, ils défendaient bien la population.
Quant à moi, c'est un danger.
J'ai dit non pour leur départ.
Ghislain est enseignant. Pour lui, le retrait de la Sangaris est une satisfaction.
De ma part, je crois que c'est logique que la Sangaris puisse reprendre le chemin du retour. Juste parce qu'au départ, là, on sentait la Sangaris sur le terrain. Ils désarmaient les Séléka et même les anti-Baraka. Mais arrivant à un certain temps, on n'a même pas constaté la présence de la Sangaris sur le terrain. Et comme si les Centrafricains sont abandonnés eux-mêmes. La preuve en est qu'il y a des tueries un peu partout dans le pays et personne ne tient compte de ce qui se passe. Donc je crois que c'est pour nous un ouf que la Sangaris puisse repartir.
La Sangaris plie bagage mais passe le relais à la MINUSCA, la force de l'ONU déployée dans le pays en septembre 2014. Depuis plusieurs semaines, la MINUSCA fait l'objet de critiques acerbes. La société civile exige même son départ. Dans les rues de Bangui, la MINUSCA n'inspire plus confiance.
Un peu partout, on a des troubles, tout ça là, et la MINUSCA qui est censée protéger les Centrafricains, c'est eux-mêmes qui laissent maintenant les Centrafricains à la merci de ces barbares.
La MINUSCA, je sais que la MINUSCA a lamentablement chuté. Leur mission partout ailleurs n'est que des échecs. Vous savez, toute la population centrafricaine est revendue seulement le retour des FACA sur le terrain.
Moi, je n'y crois pas. Ceux-là sont venus juste pour leur business. On sent cela sur le terrain.
Pour Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission de l'ONU Centrafrique, la MINUSCA a contribué efficacement et en toute impartialité à la stabilité du pays.
Ce que je dois dire ici, la force de la MINUSCA, grâce à son impartialité, elle est parvenue à contribuer à la stabilité dans ce pays. Et j'en veux pour preuve, par exemple, la réussite du processus électoral et la fin des tueries en masse. Ce qui se passait en 2014 n'existe plus en 2016. Il faut être aveugle pour ne pas voir les progrès.
Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, a indiqué lundi au Parlement centrafricain que la France n'abandonnera jamais la République centrafricaine malgré la fin de l'opération Sangaris. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Dans le nord de la France, à Calais, plusieurs pelleteuses finissaient de déblayer hier les ruines de la jungle, dernière étape de la démolition du plus grand bidonville de France. La question de l'accueil des migrants reste entière. Environ 5000 adultes ont été évacués ces derniers jours vers des centres disséminés à travers le pays. Claire Morin-Gibourg a joint la responsable chargée de l'accueil des migrants au centre de l'armée du salut à Reims, Anne-Lise Mouret.
Alors l'accueil s'est plutôt bien passé, voilà, on les attendait depuis plusieurs jours. On les a trouvés fatigués, extrêmement reconnaissants et soulagés. Ils ont eu besoin de se reposer dans un premier temps, mais ils étaient soulagés d'être au chaud, avoir un toit et puis d'avoir des gens aussi pour s'occuper d'eux quand même malgré tout, sur les premières choses à faire. Voilà, après c'est tout un apprentissage, hein, apprentissage de vivre entre quatre murs quand on n'a pas l'habitude, apprentissage de l'électroménager pour nettoyer son linge, utiliser les plaques chauffantes, des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués jusqu'à présent.
Avez-vous rencontré des difficultés avec la population de Reims? Est-ce que les gens qui habitent autour, vous avez eu des réactions hostiles?
Alors pour l'instant, on n'a pas eu de réaction hostile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. En tous les cas, nous, on ne l'a pas ressenti comme ça. Au contraire, on a eu plutôt des gens qui se sont présentés spontanément par différentes voies pour nous dire, voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide? On propose de venir donner des cours de français, de venir leur faire visiter la ville pour qu'ils apprennent à sortir, à trouver les magasins, les lieux qui vont être ressources pour eux. Donc nous, on a plutôt eu des gens de bonne volonté. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien.
Et quelles sont les perspectives d'avenir pour ces migrants que vous avez accueillis?
Tout dépend de la procédure dans laquelle ils sont. Certains ont déjà fait les démarches pour déposer l'asile, d'autres non. Les démarches sont tout à fait récentes. En tous les cas, tous ceux qui n'ont pas déposé l'asile nous ont fait part qu'ils souhaitaient le faire. Donc on va s'occuper de ces choses-là. Après, la demande d'asile, elle ne nous appartient pas à nous. Elle appartient à l'OFPRA, l'Office français Protection Réfugiés et Apatrides. Donc c'est toute une procédure administrative pour qu'ils soient reçus et entendus par les officiers de protection. Et en fonction, effectivement, de ce que ressentiront les officiers de protection et des éléments qui seront apportés au dossier, ils estimeront ou pas la nécessité d'avoir une protection internationale. Donc à partir du moment où il y a une protection internationale, ce sont des personnes qui vont être régularisées sur le territoire français et pour lequel eh bien, il y aura tout un travail d'insertion à démarrer.
Anne-Lise Mouret, chargée de l'accueil des migrants au centre de l'armée du salut à Reims. présidentielle américaine 2016, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump croisent le fer au sujet de la décision du directeur du FBI, la police fédérale, de rouvrir l'enquête sur les emails de l'ancienne secrétaire d'État américaine. Les démocrates ont de leur côté saisi la justice dans 4 États contre ce qu'ils estiment être une tentative d'intimidation des électeurs par les républicains. On fait le point avec Timothée Donangmaï.
La controverse des emails de Hillary Clinton domine le nouveau cycle de la course à la Maison-Blanche. Le républicain Donald Trump s'en sert pour intensifier ses attaques contre son adversaire démocrate. Pour l'homme d'affaires devenu politicien, l'élection de l'ancienne secrétaire d'État à la présidence aboutirait à une crise institutionnelle dans la mesure où, dit-il, celle-ci ferait probablement l'objet d'une longue enquête judiciaire. Verdict de Donald Trump, Hillary Clinton n'est pas qualifiée pour diriger les États-Unis. La candidate démocrate, elle, tente de maintenir le cap au cœur de cette nouvelle tourmente. Il n'y a absolument rien dans ce dossier des emails.
I think most people have decided a long time ago what they think about all of this.
Et la plupart des gens ont tiré leurs conclusions il y a longtemps à ce sujet, a déclaré Mme Clinton lundi, assurant qu'elle ne cherche nullement à se donner des excuses pour avoir utilisé un serveur privé lorsqu'elle était au Département d'État. L'ancienne secrétaire d'État ne mâche pas ses mots au sujet de son adversaire républicain. Imaginez-le dans le bureau ovale faisant face à une véritable crise, a-t-elle lancé à ses partisans lundi. Estimant que cette affaire pourrait nuire à leur candidate, les leaders démocrates ont demandé au directeur du FBI de publier toutes les informations dont il dispose à ce propos.
Sur un autre plan, Donald Trump, qui n'a cessé de lancer des accusations de fraude électorale sans fournir de preuves, fait maintenant l'objet d'un procès des démocrates, Tim.
Le candidat républicain a réitéré lundi à Grand Rapids, dans l'État du Michigan, ces allégations selon lesquelles une vaste fraude électorale est en cours contre lui.
And the only way to save our democracy is to get out and vote by the millions.
La solution est simple, a-t-il assuré. Sortez et votez par millions et nous n'aurons pas à nous soucier de ce qui se trame en coulisses, a-t-il lancé à ses militants lundi. Plusieurs études ont montré que la fraude électorale est extrêmement rare ici aux États-Unis. Des responsables du Parti démocrate ont saisi la justice dans les États de Pennsylvanie, du Nevada, de l'Ohio et de l'Arizona, accusant les républicains de se livrer à une campagne d'intimidation des électeurs, une tentative qui, selon eux, viole la loi de 1965 sur le droit de vote, ainsi qu'une loi de 1871 visant le Ku Klux Klan. Le camp du candidat républicain n'a pas répondu à ces accusations. Plusieurs États autorisent la présence de scrutateurs électoraux des camps rivaux dans les bureaux de vote, mais avec certaines restrictions. La course à la Maison-Blanche s'est nettement resserrée dans les sondages nationaux, certains donnant l'avantage au républicain Donald Trump. Mais le fait est que le président des États-Unis est élu non pas au suffrage universel, mais État par État selon la formule des grands électeurs. Les deux principaux candidats cherchent donc à obtenir au moins 270 voix sur les 538 que compte le collège électoral pour arriver à la Maison-Blanche. D'où les efforts du républicain Donald Trump dans les États votant traditionnellement pour les démocrates.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! Thank you.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Botson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.